Le chien, une fois qu'il est attelé, il a qu'une envie, c'est de courir et de courir le plus vite possible. Et donc c'est à nous de détecter en les regardant courir si on peut accélérer, si on doit ralentir un peu pour ne pas arriver en fait dans la zone rouge qui fait que le chien tout simplement il va s'écrouler de fatigue.
Hello, hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bah écoute, bienvenue Rémi sur le podcast, ravi de t'accueillir ce soir, d'ailleurs en direct de la Suède.
Oui, en direct de la Suède, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on est installé ici.
Excellent. Écoute Rémi, moi je suis super content que tu puisses prendre un petit peu de temps pour nous expliquer ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens. J'en dis pas plus, je te laisserai te présenter, mais l'univers dans lequel tu évolues aujourd'hui, l'univers du mushing, c'est un univers que je trouve moi absolument fascinant depuis un moment, mais que je connais au final assez peu. Donc je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses avec toi ce soir. Mais voilà, je te laisse commencer par nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens.
Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans maintenant qu'on vit pleinement en Suède. On a déménagé en Suède pour vivre pleinement notre passion du chien de traîneau, que ça soit l'activité touristique, parce qu'on reçoit des touristes essentiellement français pour partager notre passion, et puis surtout la compétition, puisque c'est vraiment ce qui nous motive. Et quoi de mieux que la Suède avec des grands espaces, le froid, des bonnes températures, de la solitude pour pouvoir entraîner les chiens de traîneau.
Génial. Et vous êtes où en Suède par curiosité?
Alors, on est à Lycksele, c'est dans le Västerbotten, hein, c'est au nord de la Suède, c'est à peu près à 1000 km au nord de Stockholm. Okay. Donc on est en Laponie suédoise. Dans un endroit qui est vraiment pas touristique. Hein. Notre premier voisin, il est à 10 km. Le premier village est à 40. Voilà. Et la première grosse ville est à 120 km de chez nous.
Waouh, ok. Donc, oui, des conditions, un environnement plutôt isolé en tout cas.
Ah oui, là on est tranquille. Hein. On a la distanciation sociale assurée ici.
Excellent, génial. Écoute, avant qu'on continue sur le mushing, peut-être ce qui serait intéressant, c'est comment est-ce que tout ça a commencé et qu'est-ce que tu faisais avant d'être musher?
Alors, c'est vrai que le mushing, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais et je suis complètement tombé là-dedans par hasard. Moi, ma première passion, ça a été la boulangerie. Parce que j'avais un oncle qui était boulanger et à l'âge de 5 ans, en fait, je suis tombé fou amoureux du pain. Ça a commencé en fait tout bêtement. Hein, voilà, 5 ans, j'étais en vacances chez mon cousin et puis j'ai demandé à mon oncle, ouais, tonton, comment on fait les pains au chocolat? Et ben, il m'a dit, si tu veux savoir comment on fait les pains au chocolat, tu te lèves à 1h du matin, tu descends au fournil et je vais te montrer comment on fait. Et ben, à 5 ans, et ben, à 1h du matin, je me suis levé, je suis descendu au fournil. J'ai fait des pains au chocolat avec lui, sauf que je ne suis pas remonté. Mais je suis physiquement pas remonté. Et après, toutes mes vacances scolaires, en fait, je les ai passées à travailler dans le fournil parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir. Et ça a été ma passion pendant de nombreuses années. J'ai eu la chance de découvrir de très, très bons professionnels qui m'ont donné le goût du travail, le goût de se dépasser, d'essayer d'aller chercher l'excellence. Et du coup, en 2000, je suis devenu moi-même après meilleur ouvrier de France. Je me suis ensuite installé à Megève, où on a ouvert 8 boulangeries. Donc c'était voilà une entreprise qui marchait très très bien, qui prospérait. Mais un jour, on va dire que les contraintes de la gestion d'une entreprise sont devenues plus importantes que le plaisir que j'en avais. Et moi, je suis un passionné. J'ai besoin de me lever les matins et d'avoir du plaisir à ce que je fais. Et à partir du moment donné où les contraintes sont plus importantes que le plaisir qui en découle, et ben, tout simplement, ben, j'ai arrêté. Je me suis dit, hop, voilà, ce que je fais là me correspond plus. J'ai peut-être un petit peu fait le tour. Et ben, j'arrête et je fais autre chose. Donc, quasiment du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Quelques années auparavant, j'avais fait un voyage au Canada et j'avais fait du chien de traîneau, mais complètement par hasard. J'ai fait du chien de traîneau, ça m'a plu. J'y suis retourné plusieurs fois en fer, on y est retourné en famille. Et puis deux ans après, j'ai eu mon premier chien, et puis mon deuxième chien, et puis mes premières portées. Et en même temps que j'avais les boulangeries, en fait, je me suis retrouvé avec une douzaine de chiens à la maison.
Ah oui, quand même.
J'ai commencé à faire du mushing, mais à titre de loisir. Voilà. Uniquement, voilà, comme on appelle ça dans le jargon du mush-mush. Voilà. C'est simplement voilà, aller se promener avec ses chiens, partager l'activité avec eux, les grands espaces, la nature. Et quand j'ai vendu les boulangeries, bah, je me suis dit, bah, tiens, bah, en fait, j'aime les grands espaces, j'aime partager ma passion, j'aime le sport, et ben tiens, je vais me lancer là-dedans. Et donc, j'ai passé mon diplôme d'état de musher, puisqu'il faut un diplôme d'état pour pouvoir encadrer cette activité en France. En parallèle, j'ai passé l'accompagnateur en montagne et avec le moniteur VTT, qui était mon premier sport à l'origine. Voilà, et en un an, je me suis complètement reconverti, arrêté la boulangerie pour passer au monde du mushing. Dans un premier temps, c'était vraiment à titre professionnel, hein, donc j'emmenais des touristes découvrir l'activité. C'était sur la station des saisies. Et puis, complètement par hasard, un jour, l'école qui m'avait formé me dit « Ah, bah Rémi, il y a la Grande Odyssée qui nous offre deux invitations pour faire un trophée Grande Odyssée. » Parce qu'au sein de la Grande Odyssée, qui dure 11 jours, en fait, il y a des trophées qui durent 3-4 jours, pour pouvoir faire la promotion de l'école. Est-ce que ça t'intéresse? Je commençais un petit peu à avoir des chiens performants, avoir des chiens plus typés courses, parce qu'il y a une multitude de races qu'on peut atteler devant un traîneau. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, je me suis préparé un petit peu. Et là, dès que j'ai pris le départ de la course, je m'en souviens comme si c'était hier, hein, j'ai pris le départ. Et au bout de 50 mètres, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est pas forcément emmener des touristes se promener. Non, non, je veux faire de la compétition. Je veux partager cet effort avec les chiens. Je trouve ça merveilleux, cette ambiance, cette osmose avec eux. Et là, j'ai mis la main dans l'engrenage, qui fait que bah, très rapidement, j'ai fait de la compétition et l'activité professionnelle. Et au bout de 2-3 ans, je me suis dit, si je veux vraiment performer, vraiment m'améliorer, vraiment être bon, bah, je fais plus que ça. Et donc, je me suis lancé pendant des années à ne faire que de la compétition, jusqu'à ce qu'on déménage ici en Suède pour pouvoir avoir un environnement qui est vraiment très propice à notre activité.
Waouh ! Quel parcours ! quel parcours ! Et par curiosité, en dehors de la Grande Odyssée, quels sont les autres gros événements, les grosses compétitions auxquelles tu as pu participer?
Alors, nous, on s'est vraiment spécialisé parce que dans le monde du mushing, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Hein. Il y a plein de disciplines différentes. Du sprint jusqu'à la longue distance. Et nous, on s'est spécialisé dans les courses de mi-distance à étapes. Donc, c'est des courses qui durent entre 8 et 11 jours, d'accord ? On court tous les jours, on a des étapes tous les jours, et les étapes font entre 30 et 60 km par jour.
Ah oui. Voilà.
Nous, on s'est vraiment spécialisé là-dedans, tout simplement, parce que ça allie vitesse et endurance et la possibilité d'avoir beaucoup de soins sur les chiens, qui, pour moi, est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'on a un pool de chiens, par exemple, sur la Grande Odyssée, on a 12 chiens. Et tous les jours, on doit atteler 6 chiens minimum, 10 chiens maximum, en fonction de l'étape. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée de l'étape, de la difficulté technique, de la difficulté physique, et ben des fois, il vaut mieux mettre atteler 6 chiens et en laisser reposer 6, mais des fois, il vaut mieux en atteler 8, ou des fois, il vaut mieux en atteler 10. Voilà, donc en fait, c'est comme si on avait une équipe de foot, on va gérer un petit peu notre équipe en fonction du parcours qu'on a. Et le fait de pouvoir faire reposer les chiens, bah, c'est super parce que bah, c'est comme des athlètes de haut niveau. Ils produisent un effort physique. Après, ils ont besoin de soins, de massages, d'ostéopathie et de récupération. Donc, c'est vraiment le genre de course qui nous intéresse. Les courses principales dans la mi-distance, ça va être la Grande Odyssée qui a lieu en France. Et on a un autre objectif important, c'est la Norway Trail qui a lieu en Norvège.
Ok.
Sous le même profil.
D'accord. Mais alors attends, si mi-distance, c'est déjà des épreuves qui durent en gros une semaine, les épreuves de longue distance, ça s'étale sur combien de temps?
Les épreuves de longue distance, la plus connue, ça va être l'Editarod, hein, qui a lieu en Alaska. C'est une course qui fait 1600 km.
Ah ouais.
Voilà. Et donc là, c'est 1600 km, mais c'est en non-stop, avec des checkpoints sur lesquels on a des points de passage obligatoires. Mais là, par contre, on ne peut pas laisser reposer des chiens. C'est-à-dire qu'on part avec un attelage composé de 16 ou 18 chiens, d'accord? Et on ne peut pas avoir de remplaçants. On peut enlever des chiens quand ils sont fatigués, mais on ne peut pas avoir de nouveaux chiens qui vont intégrer le team.
D'accord. C'est super intéressant parce que je n'avais pas forcément conscience, tu vois, de cet aspect stratégique sur la gestion de, bah, des chiens, justement, de combien tu en emmènes, quand est-ce que tu fais les changements, combien tu en attelles. Ça rajoute une dimension que je n'avais pas forcément vue. Super intéressant. Et sur alors la grande Odyssée en particulier, je reviens sur celle-là peut-être plus spécifiquement parce que bah, moi, c'est celle que je connais le plus. Et, alors d'ailleurs... Dis-moi en tant qu'expert, est-ce que c'est la course la plus connue en Europe, en France, à tes yeux?
Ouais, c'est la course la plus médiatique et puis c'est surtout la course la plus difficile techniquement. C'est-à-dire que c'est la seule course qui se déroule intégralement en montagne. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de dénivelé positif, donc ça monte énormément. Donc ça veut dire que c'est physique pour les chiens, mais c'est également physique pour le musher. Et c'est très dur techniquement parce que tout ce qu'on monte, il va falloir le descendre. Donc il faut avoir du pilotage. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette épreuve qui me tient à cœur parce qu'on fait vraiment, on ne fait qu'un avec le team. C'est-à-dire qu'on demande à nos chiens de courir, d'être performants, mais il faut soi-même courir et être performant. Et on va vraiment partager l'effort. Et c'est vraiment pour ça que ce type de course me plaît énormément.
Alors, au-delà du fait que ça te plaise, je crois que tu l'as pas mentionné, sans doute par humilité, mais tu l'as remporté, tu l'as déjà remporté, la Grande Odyssée.
Ouais.
Plusieurs reprises d'ailleurs.
Ouais, c'est la sixième fois cette année là.
Juste 6 fois, donc oui. C'est jamais arrivé, je crois. Il me semble avoir lu des articles, t'es le seul à avoir.
Non, le record était de 3 fois.
Ouais.
Et là, ça fait la sixième fois et puis on est en train de se préparer pour essayer de remporter une septième fois.
Excellent. Alors justement, comment tu te prépares à ce genre d'épreuve quand tu as un niveau de technicité aussi important? Parce que le terrain, bon, bah, tu nous disais que tu vis maintenant en Suède. Moi, je suis allé qu'une fois en Suède, mais ce que j'avais pu en voir, c'est relativement plat. C'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les Alpes. Donc, comment tu fais pour toi et pour te préparer toi, mais également les chiens à ce genre d'épreuves techniques?
Alors déjà, on s'entraîne toute l'année. C'est-à-dire qu'une grande odyssée, pour nous, elle se prépare dès l'arrivée de la précédente. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où on a franchi la ligne d'arrivée, moi, la première chose à laquelle je pense, avec ma compagne Aurélie, qui est aussi meucheuse, vétérinaire et meucheuse, c'est que dès qu'on a passé la ligne d'arrivée, on se dit, bon, voilà, ça c'est fait, on le met de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être meilleur l'année prochaine? Parce que le but, il est là, en fait. Hein, c'est pas forcément de remporter une nouvelle fois la course. Ce qui est important, c'est d'analyser ce qu'on a fait. Bon, qu'est-ce qui a été? Bon, bah, ça, on le met vite de côté. Mais qu'est-ce qui a pêché? Où est-ce qu'on peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'on a vu sur nos concurrents qui pouvaient être intéressants? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, on fait le debriefing en général quasiment tout de suite. Et lors du voyage de retour, qui dure quand même 3 jours, hein, parce qu'on a 3 600 km à faire pour rentrer chez nous, bah là, on se fait un petit débrief et on se dit, voilà, on va pouvoir changer telle chose sur la nourriture, telle chose sur l'éducation des chiens, telle chose sur, je sais pas moi, la logistique du camion, parce que la logistique est importante. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer aussi sur l'entraînement? Et ça, bah, dès qu'on arrive à la maison, eh ben, on travaille en ayant comme point de vue la grande odyssée de l'année d'après, parce que ça reste vraiment aujourd'hui notre objectif principal. On a d'autres objectifs annexes. Hein. L'année prochaine, on va faire les championnats du monde qui ont lieu en Suède et la Norway Trail. Mais l'objectif numéro un, pour nous, c'est la grande odyssée. Donc,
Wow.
l'entraînement, il est très très varié en fait. Hein. On fait beaucoup beaucoup de travail en libre. Alors, quand on dit en libre, en fait, hein, c'est que voilà, je prends 15-20 chiens avec moi. Je les emmène en VTT. C'est-à-dire que moi, je suis en VTT, je roule à une certaine allure et eux se mettent derrière moi. D'accord? Ils me suivent à la même allure que moi pour pouvoir en fait travailler de l'endurance. Parce que bah, comme chez un athlète humain, c'est exactement la même chose, comme chez un athlète humain. On travaille 80% d'endurance et après 20% de fractionné pour pouvoir augmenter notre niveau. Et la meilleure des solutions qu'on a trouvées, bah, c'est ça. Voilà, on prend un VTT, on fait 30 à 60 km par jour. Ça nous entraîne nous et ça les entraîne eux. Et ensuite, on va faire du travail plus spécifique à l'attelage où on va atteler les chiens à en général un quad. Sans moteur, mais très lourd. Hein, c'est un quad qui fait 400 kilos. Et on va là travailler la puissance.
Ok.
Ce qui fait que
D'accord.
quand on va arriver aux premières neiges début novembre, et ben on aura travaillé l'endurance, on aura travaillé la puissance, et ensuite il n'y aura plus qu'à travailler le spécifique avec la glisse du traîneau et le pilotage.
Ok. Waouh. C'est fou de voir que ça, enfin, évidemment, quand on voit le niveau de ces courses, voilà, la Grande Odyssée, c'est un peu une des références, si je ne me trompe pas, dans l'univers du mushing. Donc, ça paraît évident de dire qu'il y a une grosse préparation derrière, mais je ne pensais pas que c'était, en gros, tu finis l'édition N, tu es déjà en train de préparer quelques jours plus tard l'édition N plus 1.
Ah oui.
Ouais.
On pense quasiment qu'à ça. Bah, par exemple, je sais pas, voilà, une journée comme aujourd'hui, elle a démarré à 4 h du matin pour les premiers entraînements. Et j'ai terminé les derniers entraînements vers midi. Parce qu'on a quand même une quarantaine de chiens à entraîner. Donc on a plusieurs groupes de chiens qui ont des niveaux un petit peu différents, hein, avec des plus expérimentés, des plus jeunes. Donc, on ne leur fait pas forcément faire la même chose au même moment. Et puis, le soir, en général, c'est plutôt l'entraînement spécifique humain, parce qu'on est aussi suivi par un préparateur physique pour travailler bah, en fait, tout ce qu'on va avoir besoin sur la course, c'est-à-dire bah, beaucoup de cardio, beaucoup de fractionné, et puis des gestes spécifiques comme de la trottinette, parce qu'on patine énormément entre et essayer de refaire ces mêmes gestes tout le long de l'année pour être le plus performant possible le jour J.
Ok. Et alors, tu as parlé d'entraînement alors physique pour les chiens, spécifique. Mais j'ai une question. Il me semble, alors, encore une fois, hein, je connais très peu l'univers du mushing, mais si j'ai bien compris, il y a quand même aussi une notion de quand tu assembles ta team. Tu mets pas juste, un peu comme en sport, tu mets pas juste des profils de chiens qui sont forts physiquement ou forts techniquement. Il y a aussi une notion de travail en meute, si j'ai bien compris, avec une sorte de hiérarchie sociale entre les chiens eux-mêmes.
Alors, oui et non.
Ok.
Oui, parce qu'on peut parler de meute quand on va parler de chiens nordiques. Hein. En fait, on va avoir deux grandes familles qu'on va atteler devant les traîneaux. Il y a les chiens, ce qu'on appelle nordiques. Donc, en général, les chiens nordiques, c'est ce que connaît monsieur et madame tout le monde. C'est le husky de Sibérie, c'est le groenlandais, c'est le malamute. En un mot, c'est un gros chien, les oreilles droites, la queue en panache et du poil. C'est ce qu'on peut retrouver dans les livres de Jack London, mais il n'y a pas que ça. Et nous, c'est pas avec ça qu'on court. Nous, on court avec ce qu'on appelle des Scandinavian Hund. Donc, Scandinavian, parce qu'ils ont été inventés en Scandinavie. Hund, parce que ça veut dire chien. Et ces chiens-là, en fait, ça a été le croisement de multiples races pour obtenir, en fait, les chiens les plus performants possibles en compétition de chien de traîneau. Si on veut faire un résumé, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on prend un chien nordique, par exemple un husky de Sibérie, on le fait reproduire avec un chien plus fort, plus puissant, plus rapide, donc tous les chiens qui sont issus de la chasse, un braque, un setter, un pointer, un lévrier greyhound, et on obtient un Scandinavian Hund. Donc ça ne se fait pas sur une génération, hein, ça se fait sur plusieurs générations. Mais une fois qu'on a obtenu ça, ben en fait, on a un chien qui a cette capacité de tracter qu'a le chien nordique, avec cette capacité d'aller vite qu'a un chien de chasse. Et là, on obtient, entre guillemets, le chien parfait pour le chien de traîneau, c'est-à-dire un chien fort, puissant, endurant, et surtout très proche de l'homme. C'est là la grosse différence avec du chien nordique. Du chien nordique, on va parler d'une meute, parce que comme une meute de loup, il y a un dominant, des dominés, et il y a un rapport de hiérarchie, oui, qui s'installe dans le groupe. Alors que dans le Scandinavian Hund, on ne parle pas de meute, on parle de groupe de chiens dont le musher est le point de référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de notion de dominant-dominé, il y a simplement un groupe de chiens dont nous, on est le point de référence, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'être avec nous et de nous faire plaisir. Voilà.
Ce qui enlève quand même un gros niveau, enfin un gros niveau de complexité à gérer par rapport à une, pour le coup, à une meute.
Déjà, ça enlève beaucoup de tension au niveau des chiens, ça enlève beaucoup de tension au niveau du musher, et surtout, ça nous permet de faire un travail qu'on pourrait faire très difficilement avec des chiens nordiques. Voilà, ce matin, par exemple, je suis parti avec 16 chiens derrière mon VTT. Et on va se promener dans les forêts suédoises. On peut rencontrer des oiseaux, on peut rencontrer des rennes, on peut rencontrer des élans. Et les chiens ne vont pas s'enfuir. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rester autour de nous. Parce qu'en fait, ce qui leur fait plaisir, c'est qu'on partage quelque chose ensemble. Voilà.
Mais du coup, sur des... et le fait d'utiliser des Scandinavian Hounds, alors vous, c'est ce que vous faites, mais... enfin, en tout cas, le fait d'utiliser un attelage qui n'est pas un attelage de chien nordique, est-ce que c'est viable sur des courses aussi un peu plus longues et extrêmes comme celle qu'il y a en Alaska, où il y a parfois des formats d'épreuves où il y a un peu moins le choix, il faut que ce soit des chiens nordiques?
En fait, aujourd'hui, toutes les courses, quelle que soit la distance, hein, que ce soit du sprint à la longue distance, elles ne sont plus gagnées par des chiens nordiques. On va avoir soit du Scandinavian Hund pour le sprint à la mi-distance, et ensuite, quand on veut aller dans de la longue distance, on va utiliser ce qu'on appelle des Alaskans, d'accord ? Donc, pour monsieur et madame tout le monde, quand ils vont le regarder, ils vont se dire « Ah oui, c'est un husky ». Non, c'est pas un husky de Sibérie. C'est en fait la même chose, exactement la même chose qu'un Scandinavian Hund, sauf que le pourcentage de chiens de chasse est un peu moins important à l'intérieur. Donc physiquement, c'est un chien qui ressemble plus à un chien nordique, d'accord ? Il est un petit peu plus... Il a des oreilles droites, il a un petit peu plus de poils, ça va être un chien un peu plus primitif, d'accord ? Mais par contre, avec des capacités qui sont bien plus importantes que des chiens nordiques.
D'accord. Waouh ! C'est vraiment passionnant. J'avais vraiment pas du tout vu cet aspect. J'ai encore une fois gestion un peu tactique quand même de l'équipage que tu mets devant le traîneau. Et ça, toi, avant d'arriver à la conclusion que tu voulais travailler avec des Scandinavian Hounds plutôt que des chiens nordiques, c'est quelque chose qui était très clair pour toi dès le début, ou ça s'est construit au fur et à mesure de tes épreuves?
Non, ça s'est construit au fur et à mesure parce que, comme tout le monde, quand j'ai commencé l'activité, ben, on pense à Husky de Sibérie, ouais. et il se trouve que la première personne que j'ai rencontrée avait des malamutes d'Alaska, et donc j'ai pris des malamutes d'Alaska. Mais sans avoir de connaissance de la race, sans avoir de connaissance de l'activité, je l'ai pris parce que bah voilà, il fallait commencer par quelque chose, et je me suis retrouvé avec des malamutes d'Alaska. Mais très rapidement, je me suis rendu compte quand même que au niveau du caractère, au niveau de ce qu'on pouvait faire avec eux, au niveau de la performance surtout, c'est pas du tout le genre de chien que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était partager pleinement quelque chose avec mes chiens, que ça soit facile à vivre, qu'on puisse faire plein d'activités, aller faire du vélo avec eux, aller faire du trail avec eux, aller faire de la natation avec eux. Et puis surtout, une fois qu'on les attelle, être performant, c'est-à-dire aller vite et aller loin. Donc rapidement, je me suis rendu compte que la race dans laquelle je m'étais lancé n'était pas forcément très adaptée à ce que je voulais. Donc ben, j'ai commencé à évoluer, à me renseigner à droite, à me renseigner à gauche, à aller voyager en Alaska pour aller chercher mes premiers Alaskans, à aller en Scandinavie pour aller chercher mes premiers Scandinavian Hounds, et puis voilà, rencontrer le maximum de gens dans le milieu pour apprendre. Voilà, il y a telle personne qui va être bon en alimentation, ben je vais aller la voir pour essayer d'apprendre l'alimentation. Telle personne est bonne en entraînement, donc je vais la voir pour l'entraînement. Quand on veut apprendre, mais soit dans n'importe quel métier ou n'importe quelle passion, il vaut mieux aller voir tout de suite les meilleurs et s'adresser à ceux qui gagnent et s'adresser à ceux qui maîtrisent la discipline depuis des années pour essayer de progresser le plus rapidement possible.
Et alors justement, quels seraient toi tes conseils maintenant que tu es clairement plus expérimenté et clairement l'un des meilleurs avec entre autres tes 6 titres de champion de la, enfin de comment on dit d'ailleurs de champion
Ouais,
de
champion du
vainqueur
monde.
de la Grande Odyssée, ouais. Quel conseil est-ce que tu te donnerais toi à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le mushing?
Alors déjà, il faut prendre les bonnes lignées de chiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des lignées de chiens qui sont très stables d'abord dans leur tête, dans leur caractère, qui sont faciles à vivre, qui n'ont peur de rien, qui s'habituent à tout, et qui ont un potentiel physique très important. Donc après, bien entendu, il va falloir l'exploiter, hein. On a un potentiel, mais si on ne l'entraîne pas, ben, ça ne va pas donner grand-chose. Mais alors déjà, ch choisir les bonnes lignées, prendre son temps, et surtout, le plus important aujourd'hui, avant de parler d'entraînement, nous, on parle d'éducation. Nous, par exemple, ici, en Suède, on reçoit des groupes de mushers qui ont envie, ben justement, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser. Voilà, la semaine prochaine, on a une dizaine de personnes qui va venir pour découvrir ça. Et ben la première chose que je vais leur dire, c'est on va parler d'éducation. On va pas parler lignée de chiens, on va pas parler d'entraînement, on va pas parler de nourriture, on va parler d'éducation. Parce qu'à partir du moment donné où les chiens ont une bonne éducation, et ben on peut tout faire avec eux. Alors que si on a le meilleur chien du monde, mais qui n'écoute rien, et avec lequel on ne peut rien faire, on ne peut pas lui faire faire des exercices appropriés. La différence d'un athlète humain à un athlète canin, c'est qu'un athlète humain, ben, on peut le prendre entre quatre yeux et lui dire, ben voilà, aujourd'hui tu vas faire du fractionné, voilà, tu vas faire ce que j'ai fait tout à l'heure, tu fais 1 minute à fond, 1 minute de repos, 1 minute à fond, 1 minute de repos. Mais un chien, on ne peut pas lui expliquer ça. Donc il faut trouver des méthodes, il faut trouver des subterfuges pour obtenir la même chose, mais avec un groupe de 10, 15, 20 chiens. Donc pour ça, il faut avoir des chiens qui sont complètement à l'écoute, avec lesquels on a tout le temps la maîtrise. Voilà. On ne peut pas se dire, bah, je pars en VTT avec 20 chiens, et puis au bout de 5 minutes, j'en ai perdu la moitié, parce qu'ils ont vu s'envoler un oiseau à 50 mètres. Voilà.
Donc l'éducation. Éducation d'abord, et ensuite les bonnes lignées. Et sur les lignées, enfin, comment est-ce que tu trouves ce genre d'informations sur les lignées performantes ou qui correspondent à ce que tu cherches?
Voilà, c'est très très simple, hein. Il suffit de regarder qui a gagné les courses pendant
Ok.
les 20-30 dernières années. Et puis bah, voilà, il faut aller chez eux, il faut aller leur poser. Faut pas avoir peur de poser des questions, savoir comment ils entraînent, comment ils nourrissent, pourquoi ils choisissent ce type de chien-là. Quand on veut faire des portées. Eh ben, et leur poser la question de savoir, bah tiens, voilà, j'ai une bonne chienne, je cherche un mâle, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Ils vont nous dire, voilà, ben, il a tel caractère, ça va avoir telle incidence sur la génération. Donc, ouais, faut pas avoir peur de poser des questions, de se déplacer et de se remettre en question.
Wow. Alors pour revenir sur les courses, alors là on verra pas la vidéo sur le podcast, mais je vois que derrière toi tu as une sorte de planisphère et je vois pas vraiment l'Alaska, mais presque. Du coup, ça me fait te poser la question suivante: comment est-ce que tu gères la partie logistique quand tu dois te déplacer avec une dizaine de chiens, un traîneau, etc.? Et par exemple pour l'Alaska, est-ce que tu te rends sur place en avance pour qu'ils s'acclimatent comme des athlètes? Enfin, ça m'a l'air d'être une partie sans trop avoir les pieds dedans, quand même assez importante à gérer.
La logistique est très compliquée, hein, parce que donc nous, en plus, on court avec deux attelages. Donc, par exemple, quand on se déplace sur la Grande Odyssée, on se déplace avec 24 chiens.
Wow. Voilà. Ah oui.
24 chiens, deux traîneaux, la nourriture, les croquettes, la viande, tout le matériel. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un camion pour chevaux, qu'on a réhabilité pour le transport canin. Donc on a une partie appartement pour pouvoir y vivre à l'intérieur. Et après, là où il y avait les chevaux, ben en fait on a mis des cages à chiens et on a mis une table de massage qui nous permettent de transporter en fait 24 chiens et surtout de pouvoir soigner ces 24 chiens. Parce qu'en fait avant chaque étape et après chaque étape, les chiens, ils sont checkés au niveau ostéopathique, ils sont massés avant, ils font leur étape, et ensuite on refait ça après. Pour être sûr que l'attelage, les chiens qu'on va sélectionner pour l'étape, sont en parfaite condition pour pouvoir être le plus performant possible. Y a un dicton dans le machine qui dit qu'on gagne une course avec le chien qu'on laisse au camion. C'est très simple, ça veut dire que quand on a un doute sur un chien, ben en fait, il vaut mieux pas le prendre et le laisser se reposer, d'accord, et ne partir qu'avec des chiens sur lesquels on est 100% sûr. En sachant que, comme c'est une équipe, hein, par exemple, si on a une équipe de 8 chiens, on ira toujours à l'allure du plus faible. Donc, ce qui est important, en fait, dans l'équipe, c'est d'avoir un groupe très homogène, et ça sert absolument à rien d'avoir un super chien à l'intérieur d'un groupe moyen. Parce que ce super chien, il ne va rien apporter du tout, et peut-être même que ça sera le maillon faible, parce qu'il va vouloir aller plus vite que le reste du groupe, se fatiguer, et finalement, ça sera lui qui va craquer en premier. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un groupe le plus homogène possible, et ça, c'est très compliqué, et c'est très long. Voilà, maintenant, moi, ça fait... j'ai commencé la compétition en 2012, voilà, l'année prochaine, on est en 2022, donc ça va faire 10 ans, et même si j'ai gagné beaucoup de courses, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai eu jusqu'à présent un groupe complètement homogène, en me disant j'ai 12 chiens de même niveau qui peuvent passer dans toutes les positions possibles et sur lesquels je peux compter sur n'importe quelle étape. Voilà, c'est encore jamais arrivé. Alors peut-être que ça va arriver pour 2022, on y travaille, voilà. On n'a jamais eu un team aussi fort pour la saison prochaine, mais ce sera peut-être pas encore cette année, parce que c'est vraiment très compliqué d'avoir un groupe de 12 chiens complètement homogène.
Et comment tu suis le niveau de performance de chaque chien quand on a plus de 40? Est-ce que tu arrives vraiment à te rappeler d'où on est chacun?
Déjà on note tout, voilà, absolument, ouais. Tout. C'est-à-dire que mes plannings d'entraînement, les plannings d'entraînement qu'on fait pour nous, on le fait aussi pour les chiens, donc tout est noté, avec en plus le temps qu'il fait, la température, qui a une grosse incidence sur leur performance. Comme sur un athlète humain, on a un planning d'entraînement avec l'objectif qui est en ligne de mire, mais il faut savoir s'adapter avec la météo, avec le moral des chiens, c'est-à-dire que, pareil, on en discutait tout à l'heure, mais un chien, on ne peut pas le prendre entre quatre yeux et lui dire « bon, il y a les championnats du monde dans 6 mois, il va falloir faire des sacrifices, t'arrêtes les carrés de chocolat, t'arrêtes de regarder le foot à la télé le soir, tu te couches tôt, et on va faire des sacrifices pendant 6 mois pour pouvoir gagner une médaille. » Le chien, il s'en fout. Ce qu'il veut, lui, la seule chose qui lui fait plaisir, le chien, c'est de courir. C'est de courir et de courir vite, parce que c'est là qu'il s'éclate. Mais pour ça, il faut que tout soit un jeu pour lui. C'est-à-dire que Il ne faut pas qu'il y ait une notion de travail, une notion d'obligation. Il faut que tout ce qu'on mette en place ressemble à un jeu pour que le chien s'éclate. Et si le chien s'éclate, il est performant et il a envie de courir. Voilà.
Wow. Et alors, tu disais il faut que pour le chien, tout soit un jeu. C'est quelque chose que j'avais lu. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au chien nordique ou pas, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une notion aussi de gestion d'effort parce que dans certains cas, les chiens pouvaient en fait s'épuiser par plaisir, tu vois, mais s'épuiser, continuer à courir et aller au-delà de leurs limites. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a ça que tu dois gérer?
Ah oui, bah c'est, on a ce qu'ils appellent le will to go, c'est vraiment l'envie d'y aller, l'envie de courir, et le chien, il fait pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'un athlète humain, il peut se dire, bon, allez, là, ça va être un peu dur aujourd'hui, on va y aller mollo, ou je n'ai pas trop envie, on y va tranquille. Non, 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 le chien, une fois qu'il est attelé, il a qu'une envie, c'est de courir, et de courir le plus vite possible. Et donc, c'est à nous de détecter. En les regardant courir, si on peut accélérer, si on doit ralentir un peu pour ne pas arriver en fait dans la zone rouge qui fait que le chien tout simplement il va s'écrouler de fatigue, c'est-à-dire qu'il va pas lever la patte et dire là je suis un peu fatigué, faudrait ralentir. Non, le chien il court et quand il en peut plus, bah, il s'arrête. Donc le boulot du musher, c'est certes de piloter le traîneau, mais c'est surtout d'observer ses chiens et de les regarder. Comme on dit, on regarde le cul de nos chiens pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres pour observer leur façon de courir, voir s'ils sont bien, voir si on peut accélérer ou au contraire s'il faut ralentir un petit peu parce qu'il y en a un qui est un petit peu dans le dur et qu'en ralentissant un tout petit peu pendant quelques kilomètres, et ben, comme un athlète humain, hein, il va se refaire la cerise et puis il va pouvoir réaccélérer plus loin.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes spécifiquement comme signaux sur tes chiens?
Ah, c'est surtout la manière dont ils vont se projeter dans le harnais et l'amplitude des mouvements. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur des courses de mi-distance, on est aux alentours de 27-28 km/h de moyenne, sur des distances de 40-50 km. Donc, ça veut dire que le chien a besoin de beaucoup d'amplitude. Et s'il commence à manquer d'amplitude, ça veut dire que, un, soit il est fatigué, soit il commence à avoir un problème musculaire, hein, une lésion musculaire, soit il peut apparaître des tendinites, soit des blocages articulaires qui font qu'il va avoir moins d'empattement, donc moins de vitesse. Donc en fait, on passe notre temps à les regarder courir et aujourd'hui. Voilà, quand j'ai 10-12 chiens attelés devant mon traîneau, je peux dire, ah, celui-là, il commence un petit peu fatigué, donc on va ralentir un petit peu. Ou alors, en rentrant de l'entraînement ou en rentrant de la compétition, tout de suite, je dis à Aurélie, qui est en train de passer les examens pour devenir vétérinaire ostéopathe, il y a Smog aujourd'hui que je sens un petit peu moins bien, j'ai l'impression qu'il a un peu moins d'amplitude, il est un peu bloqué au niveau de l'épaule droite, tu peux regarder, hop, on lui fait une séance d'ostéopathie, on lui fait du massage, on lui donne 2-3 jours de repos, et ensuite c'est reparti.
Punaise, c'est vraiment, c'est des athlètes de haut niveau, hein.
C'est vrai que nous, toute notre année et toutes nos journées sont dédiées aux chiens. Voilà, c'est-à-dire qu'on se lève très tôt le matin en pensant à l'entraînement. On fait l'entraînement, on fait le nourrissage, on fait les soins, on prépare le matériel, on essaye de trouver des nouvelles techniques d'entraînement d'année en année. Voilà, on essaye de ne pas se reposer sur nos acquis et toujours se remettre en question.
Et tu disais que les journées commencent tôt, notamment pour le nourrissage. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Alors là, on rentre vraiment dans les détails, mais je trouve que c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec l'alimentation pour des chiens de performance comme tu as?
Alors, le type de nourriture qu'on va leur donner, hein, il faut que ce soit des croquettes qui soient très énergétiques. L'essentiel de leur énergie le puise plutôt dans la matière grasse que dans le sucre, au contraire de l'être humain, même s'ils en utilisent aussi. Donc, c'est des croquettes très grasses qui est couplée avec de la viande, avec du poisson, pas mal de compléments alimentaires, au même titre qu'un sportif de haut niveau. Et surtout, ce qui est important, c'est le moment où on va donner la nourriture par rapport à l'entraînement ou par rapport à la compétition. Voilà. On va dire que c'est un petit peu comme en ultra-trail. Hein. Je crois que 80% des gens qui abandonnent un ultra-trail, et c'est à cause de problèmes gastriques ou intestinaux. Et ben pour le chien, c'est un petit peu la même chose. Donc, on fait très attention sur les heures des repas, les heures des hydratations qui précèdent un entraînement ou la compétition.
Est-ce qu'il y a une notion de prise de poids volontaire avant une épreuve aussi longue que ce que tu t'apprêtes à faire en Alaska ou même pour l'Odyssée ?
Non. Comme sur un athlète humain, on fait très très attention au poids. Donc, ils sont pesés régulièrement.
Ah oui.
Et nous, on les regarde tous les jours. Et à plusieurs, parce que quand on est toujours devant un chien, on a tendance à plus vraiment voir s'il grossit ou s'il maigrit, alors que si on regarde à plusieurs, on peut se dire, ah, attention, là t'as vu, là il me semble un petit peu gros, hop, ça nous permet tout de suite de le peser, et donc les croquettes, la viande, les compléments alimentaires, tout ça c'est pesé, chaque gamelle est pesée, chaque gamelle est individuelle. Donc, ils ont un régime individuel pour chaque chien. Et on fait attention que les chiens ne prennent pas de poids, c'est-à-dire qu'ils ont leur poids de forme, d'accord ? Il faut qu'ils restent sur le fil du rasoir, hein, un petit peu comme un athlète humain. Bah, trop gros, un, ils sont moins performants, et deux, ils peuvent avoir des problèmes articulaires. Voilà, je sais pas. Et si tu vas courir et que tu prends 5 kilos, et bah, la première chose qui va arriver, c'est que tu vas avoir mal aux chevilles, aux genoux et au dos. Et bah, eux, c'est exactement la même chose. Donc, on fait attention à ça. Et puis, s'ils sont trop maigres, ben, ils vont manquer de force et puis ouais, ils risquent de tomber malades. Donc, il faut toujours être sur le fil de rasoir et faire très, très attention à ça.
Trouver le bon équilibre.
Le bon équilibre.
Alors, peut-être pour finir sur le musher, on a beaucoup parlé des chiens, mais je serais curieux de savoir, toi, comment est-ce que tu... D'une part, comment est-ce que tu te prépares ? Alors, tu nous as parlé de la préparation physique, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de la préparation sur lesquels tu investis du temps et de l'énergie pour l'Odyssée, puisque tu disais que c'était ton objectif principal, mais peut-être pour l'Alaska aussi, puisque c'est la première fois que tu vas la faire cette course, hein, en Alaska.
Pour l'instant, on n'a pas. C'est plutôt la Norvège qu'on vise.
Ok.
Et on vise peut-être de partir en Alaska d'ici 2 ans pour faire une course qui est assez célèbre là-bas, qui s'appelle l'ONAC. C'est un peu le championnat nord-américain. Mais le problème, c'est que c'est se déplacer en Alaska, ben là, c'est plus pareil, parce que là, il ne suffit plus de prendre que notre camion. Hein. Il y a un petit océan qui nous sépare. Donc, ça demande une logistique très importante, parce qu'il va falloir... il faut déplacer tous les chiens en avion. Donc, c'est compliqué, c'est très cher. Et arriver sur place, bah, il va falloir trouver un véhicule pour pouvoir transporter tout ça. Donc, c'est un projet qu'on a, qui ne se fera peut-être pas tout de suite, mais on attend d'avoir l'attelage parfait pour être sûr que ce n'est pas le déplacement pour rien.
C'est possible, tu penses, d'arriver au point où tu te dis, ça, là, c'est l'attelage parfait, parfaitement équilibré et super, je ne sais plus le terme que tu utilisais, je ne l'ai plus en tête, mais qui fonctionne vraiment en symbiose
Oui et non, j'espère pas, parce que si un jour ça arrive, ça veut dire qu'on n'aura plus rien à apprendre et plus rien à progresser. Et dans ce cas-là, s'il n'y a plus rien à apprendre et qu'on ne peut plus progresser, je crois qu'il faut passer à autre chose et se lancer dans une autre aventure. Ce qui est vraiment primordial, c'est oui, bien entendu, c'est de gagner. Moi, je suis compétiteur dans l'âme, donc quand je prends un dossard et que je vais sur une compétition, c'est pour gagner, c'est pas pour être deuxième ou troisième. Mais par contre, ce qui m'intéresse le plus en fait dans tout ça, c'est tout le travail qu'on va mettre en place jour après jour. Semaine après semaine pour progresser, pour aller chercher le petit détail qui va faire que ça va faire la différence. Si on a gagné 6 fois la Grande Odyssée, c'est pas forcément parce qu'on a l'attelage le plus rapide. C'est parce que on fait attention à tout un tas de détails qui vont faire la différence sur une course de 11 jours.
Et alors sur cette prochaine grosse épreuve en Norvège, qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur lequel toi tu es en train de te préparer ?
Alors pour la Norvège, c'est un petit peu différent que la Grande Odyssée, puisque c'est un petit peu plus court. Ça dure que 7 jours au lieu de 11. Le dénivelé est beaucoup moins important. D'accord. Parce que sur la Grande Odyssée, on peut avoir 2000, 2500 mètres de dénivelé positif, ce qui ne nous arrive pas en Norvège. Donc ça veut dire que c'est moins dur physiquement, par contre c'est plus rapide. Donc il faut, on travaille les chiens différemment pour le mois de mars, hein, parce que la Norway Trail a lieu au mois de mars, que pour la Grande Odyssée qui a lieu au mois de janvier. Voilà, au mois de janvier, on va plus travailler la puissance et l'endurance, parce que les étapes sont plus longues et plus dures, alors que pour la Norway Trail, on va travailler plus de la vitesse pure et pas mal de fractionnés pour pouvoir augmenter notre vitesse.
D'accord. Et donc toi, en tant que musher, j'imagine que tu t'adaptes aussi à l'effort. Et donc, est-ce que tu es moins sollicité sur une course qui est plus rapide et où il y a moins de dénivelé que sur une course très technique?
Ouais, c'est un petit peu moins dur physiquement la Norway Trail pour nous par rapport à la Grande Odyssée. Par contre, eh ben, on fait attention à la notion de poids parce qu'on est sur le traîneau. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport de trait, c'est-à-dire que ce sont les chiens avant tout qui nous tractent. Donc, on fait attention au poids du traîneau, on fait attention au poids du matériel qu'on amène à l'intérieur, parce qu'il y a du matériel obligatoire. Et puis on fait attention à notre poids à nous, une différence de 2-3 kilos. On voit des différences sur la vitesse des chiens.
Ah oui. Et toi, ton poids forme en tant qu'athlète ?
Ah, c'est aux alentours de 70 kilos.
Ok. Voilà. Et le traîneau pèse combien ?
Et le traîneau, alors là, c'est un traîneau un peu spécial, un peu léger. Il fait 8 kilos.
Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Ah oui, donc l'entraînement, ouais, d'accord, parce que je repense à l'entraînement avec le quad où tu disais que le quad fait à peu près 400 kilos. Ouais, donc c'est vraiment pour du travail de puissance, ça n'a rien à voir avec un poids simulé de traîneau.
Facile, la guerre facile, voilà. Ouais. Donc on essaye de travailler phase par phase pour que le jour où on arrive sur la compétition, on ait des chiens puissants, endurants, rapides en toutes circonstances.
D'accord. Ok. Et tu parlais de dernière question un peu technique, mais je suis vraiment curieux. Le matériel obligatoire dans le traîneau, il y a quoi ? Ça varie selon les courses ou tu as tout le temps des...
Oui, ça varie suivant les courses. C'est en général du matériel de sécurité. Okay. Donc ça va être dans les Alpes, c'est un arva obligatoire, une pelle, une sonde à neige, couverture de survie, des bottines pour les chiens, un nécessaire de secours humain et canin. Voilà, c'est essentiellement du matériel de sécurité.
Sécurité.
Il faut l'avoir, mais il faut que ça soit le plus léger possible parce que quand on fait une course de ski alpinisme. Il y a du matériel obligatoire à emporter, et on l'emporte, mais on fait le plus léger possible.
Ouais. Waouh. Alors, dernière question, peut-être pour finir là-dessus. Si toi, tu te projettes sur cette épreuve en Norvège, de quoi est-ce que tu as vraiment hâte ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir partager avec tes chiens ?
Ah ce qu'on partage, on le partage tous les jours, quoi. Voilà, c'est se lever le matin, prendre son VTT, aller faire 30-40 km avec eux, quel que soit le temps, hein, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse un petit peu de pluie. Justement, c'est là qu'on se dit, là je suis en train de m'entraîner, c'est dur, c'est compliqué, mais si je le fais aujourd'hui, les autres ne vont pas le faire, et c'est ça qui fera la différence demain. Voilà. Avant, dans le milieu du mushing, on entraînait les chiens l'hiver, et puis quand on arrivait l'été, on les entraîne pas parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on n'a pas les bonnes conditions, etc. Alors que maintenant, on a des techniques d'entraînement qui font qu'on peut entraîner. Voilà, nous en Suède, l'été il fait chaud, hein. Il fait 25, il fait 30 degrés, même en Laponie. Mais ça ne nous empêche pas de nous entraîner parce qu'on leur fait faire de la natation, parce qu'on leur fait faire du travail en libre qui n'est pas un entraînement attelé, donc l'effort n'est pas du tout le même. Et quand on fait 30-40 km, on fait 30-40 km doucement, parce qu'on travaille de l'endurance, et on fait ça le long d'une rivière, comme soi, tous les 4, 5, 10 km, quand il fait chaud, les chiens, ils se jettent à l'eau, ils se rafraîchissent, ils reviennent avec moi, et on est reparti.
Super. Et toi, le mushing, donc tu disais que c'était ton activité à temps plein. Est-ce que tu arrives à en vivre du fait des courses que tu gagnes?
Alors, les courses nous coûtent très très cher. Voilà.
Ouais.
On ne gagne pas notre vie en faisant de la compétition de chien de traîneau. Les déplacements, le matériel, la nourriture et les soins qu'on apporte aux chiens sont vraiment très importants. Donc, on ne gagne pas du tout notre vie avec la compétition. On gagne notre vie parce que entre chaque compétition, on accueille des touristes sur notre site en Laponie, où on va leur faire partager notre passion du chien de traîneau, mais notre passion du chien de traîneau de sport. Voilà. Donc, quand ils viennent ici, ils viennent pas faire un raid à la Jack London. Non, ils vont venir faire du traîneau avec des attelages de course. C'est les mêmes attelages qu'on utilise nous en compétition. C'est les mêmes traîneaux qu'on utilise en compétition. Et on va faire 30, 40 km entre 26 et 30 km en moyenne.
Ouais, donc du sportif.
Ouais, ce qu'on veut en fait, c'est leur montrer que le traîneau, c'est pas forcément qu'une aventure, c'est d'abord un sport. Voilà. Chez nous, on fait pas des balades de chiens de traîneau, on vient faire du sport de traîneau, et on veut vraiment leur montrer que les chiens, ce sont des athlètes, et que pour piloter un traîneau, il faut aussi être sportif.
Écoute, moi c'est clairement ce que je retiendrai, tu vois, de notre conversation. On arrive au bout, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'avais pas du tout en tête, tu vois, cette dimension forcément sportive. Oui, puisque ça semble évident quand on regarde, ne serait-ce que la durée d'une épreuve comme la Grande Odyssée, on se doute bien que quand même il y a une dimension, ne serait-ce que physique, importante. Mais j'avais pas du tout imaginé, tu vois, le détail, la complexité de la préparation, le choix de la lignée. La recherche d'efficacité, le mélange entre puissance et endurance. Enfin, c'était juste passionnant de voir comment est-ce que toi t'abordes tout ça et au final de voir que c'est beaucoup plus, complexe et stratégique que simplement, comme tu dis, une petite balade en chien de traîneau. Donc, écoute, moi je voulais te remercier infiniment pour tous ces détails que tu as bien voulu partager avec nous, le partage de ton parcours qui était juste, que moi j'ai trouvé absolument incroyable. Et je mettrai en description tous les liens vers votre site notamment et votre compte Instagram, comme ça s'il y a des gens qui veulent aller se frotter non pas à la balade en chien de traîneau mais à la discipline sportive elle-même, ils auront tout ça.
Ah, super,
un grand grand merci Rémi, tout le meilleur pour la suite, une excellente préparation pour la prochaine édition de la Grande Odyssée et toutes les autres courses sur lesquelles tu vas t'aligner. Et encore merci pour ton temps et ce super moment d'échange.
Merci à toi, et c'est toujours un plaisir de partager notre passion.
Merci Rémi.